on jase.
Émission en jase à Boulevard 102.1, les midi 34 minutes avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. On va, dans quelques instants, parler de tramway. Un dossier qui vous préoccupe et avec raison, beaucoup d'argent investi, beaucoup de travaux qui s'en viennent en ville. Vous rappelez qu'à la météo aujourd'hui, c'est une super belle journée, c'est 29 degrés. Demain, ça va être 20 degrés avec 30 % de possibilité d'averse, 20 degrés pluie pour samedi. Donc, si vous êtes comme moi et vous faites le défi des entreprises, peut-être que vous allez courir à la pluie. Et pour dimanche, on annonce également des averses et 19 degrés. Circulation?
Oui, juste vous rappeler, Laurentienne, c'est à hauteur de rue de la Faune. C'est pare-choc à pare-choc en raison des travaux dans le secteur. Également, Laurentienne, direction sud, léger ralentissement pour prendre Capitale. Et je vous rappelle que Taniata, dans le secteur de rue Sainte-Hélène, c'est toujours un peu plus difficile en raison des travaux. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
On reçoit en studio Mme Renée Amilcar, qui est PDG pour Mobilité Infra-Québec. On va parler justement de tramway parce que c'est une spécialiste. C'est elle, Mathias, qui a sauvé le tramway d'Ottawa. Mme Amilcar, comment allez-vous?
Je vais très bien vous-même.
Ça va super bien. C'est vrai ça que vous avez sauvé le tramway d'Ottawa?
J'ai contribué à faire en sorte que la fiabilité soit au rendez-vous de manière à ce que les usagers puissent l'utiliser.
Là. Ah, excellent. Donc là, on veut avoir vos trucs. Parce qu'à Québec, le tramway, je pense que vous le savez, ça fait énormément jaser. Ça n'a pas nécessairement l'acceptabilité sociale à l'heure actuelle. Donc, on veut avoir vos trucs pour que ça se passe bien. Ça a-tu de l'allure, ça?
Absolument. D'ores et déjà, je peux vous dire que vous allez tellement être fiers quand le tramway va rouler.
Oui?
Partout dans le monde, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive,
okay.
Il y a des gens qui ne sont pas contents malheureusement, mais après ça, ils sont tellement fiers. Les détracteurs, vous allez voir, là, ils vont faire des selfies la première journée, ils vont en parler à leurs amis, etc. Donc, clairement, c'est une très bonne nouvelle pour la mobilité.
Qu'est-ce qui n'avait pas bien fonctionné à Ottawa lors de la mise en place? T'sais, qu'est-ce quand vous êtes arrivé, vous, en 2021, la mise en place était faite, bon, il y avait eu des dépassements de coûts, ça allait pas bien. T'sais, c'était quoi les enjeux les plus majeurs que vous avez réglés?
Donc, d'entrée de jeu, je dois vous dire que moi, je suis chanceuse parce que dès que je suis arrivée à Ottawa, il y a eu une enquête publique.
Okay.
Sur les déboires du train léger. Et le juge là, qui était en charge de ce dossier-là, M. Horrigan, il a fait 103 recommandations. Et les 103 recommandations étaient sous ma responsabilité de les mettre en place. C'est moi qui étais devenue la grande patronne, même si je n'avais pas apporté les problèmes, il fallait que je les règle. Donc, je les ai toutes appliquées. Et en plus, j'ai ouvert deux autres lignes de train en janvier 2025. Et personne n'en a parlé. Pourquoi? Parce que ça a super bien été. Il y a tout le volet planification, comment on planifie. Et surtout aussi, lorsque vient le temps de roder le train en tant que tel, ça, c'est vraiment très, très, très important, cette phase-là, où ce qu'on doit roder le système dans toutes les conditions hivernales,
Oui, parce qu'un tramway, ça marche en hiver, ça, là.
Absolument.
Oui!
Il faut juste avoir le bon véhicule.
OK.
Il faut bien penser, il faut apprendre, bien sûr, de nos erreurs. Et clairement, le tramway de Québec va profiter de tous ces apprentissages-là et de toute cette expérience-là.
Y a-tu quand même un risque? Parce qu'à Ottawa, ça a moins bien marché au début. Est-ce qu'il y a un risque qu'à Québec, au début, on ait beaucoup de difficultés avec le tramway, notamment en hiver ou pas nécessairement?
On va tout faire pour éviter justement qu'il y ait des problèmes parce que je sais pertinemment que la fiabilité doit être au rendez-vous si on veut que le transfert modal se fasse et que les usagers utilisent le tramway. Et nous avons l'expertise, l'expérience. Nous regardons ce qui se passe ailleurs. Nous apportons des ajustements au fur et à mesure pour être sûr que ça va fonctionner jour 1.
Mais est-ce qu'il faut quand même s'attendre à avoir quelques problématiques pour les usagers? Je dis pas des problématiques majeures, mais qu'il y ait quelques problématiques au début lorsque le projet va être mis en œuvre.
Votre question, elle est très pertinente parce que malheureusement, souvent, les gens pensent que c'est une recette magique et jour 1, tout doit fonctionner rondement. Malgré que sur le train d'Ottawa, les deux lignes que je vous ai dit qui ont super bien été, pendant le test avant qu'on mette en service, on avait un résultat de 99,8 %. on a quand même eu des tout petits problèmes. L'avantage, c'est que, étant donné qu'on avait bien rodé le système, on a été très rapide pour les régler. Donc, je vous dirais, oui, on va avoir à faire face à quelques petites difficultés. Notre capacité de bien communiquer et surtout notre capacité de régler rapidement ces problèmes-là, c'est la clé. Et moi, là-dedans, j'ai énormément d'expérience, je l'ai vécu.
Quelques questions pour vous d'ordre opérationnel. On déneige ça comment, une rail de tramway? Les auditeurs nous posent toujours cette question-là. Comment on va déneiger ça?
Alors, premièrement, les tracts, ça dépend. S'il y a un petit peu de neige, le fait que le tramway va avancer, c'est comme votre voiture. Hein? Vous n'avez pas besoin de tout enlever toute la neige pour faire passer votre voiture, mais c'est clairement s'il tombe 30 cm de neige, il faut en enlever un petit peu. Et puis, vous savez, on peut voir aussi avec le REM à Montréal, puis c'est la même chose aussi à Ottawa. Bien, quand on annonce du verglas, on va souvent rouler des trains pendant toute la nuit, de manière à éviter justement là, qu'il y ait de l'accumulation. Verglas et tout ça.
Mais on passe une gratte dessus comme dans une rue?
Bien, pour la caténaire, ça va être une grattoir. Mais pour le train en tant que tel, tout dépendamment, c'est quelle sorte de train. Mm-hmm. Donc, le train léger d'Ottawa, il n'était pas assez lourd pour enlever la charge de la neige. Des fois, il fallait déneiger carrément quand on savait qu'il y avait beaucoup de neige. Donc, on le faisait de façon préventive. Mais par contre, on a aussi des trains au diesel à Ottawa.
Ouais.
Donc ça, la force du train faisait en sorte que la neige pouvait s'enlever.
À Québec, compte tenu que ça va être électrique et batterie, on risque plus d'avoir besoin d'une déneigeuse traditionnelle, c'est ce que je comprends?
Pas nécessairement, mais je veux vous dire qu'on travaille avec des experts. Mm-hmm. On a beaucoup, beaucoup de gens là, qui travaillent avec nous, qui vont nous aider justement à voir comment l'exploitation va se faire. Puis ces questions-là, on va se les poser. Et s'il faut effectivement déneiger pendant la nuit, on va le faire. Mais le fait, puis encore une fois, là, c'est la même chose pour votre voiture. Là. Même s'il y a une grosse tempête de neige, vous prenez votre voiture pareil, vous avancez, mais vous avancez peut-être un petit peu plus lentement.
Pas que le tramway va avancer plus lentement, mais ça se déneige. Parfait. Autre question qu'on a souvent des auditeurs, c'est est-ce que c'est vrai qu'il va falloir faire tourner le tramway pendant un an vide pour faire nos tests?
Les tests vont être très importants. Il est prématuré de dire combien de temps qu'on va avoir besoin pour roder le système. Et quand on dit roder le système, c'est pas, on n'attend pas que tout soit terminé. Au fur et à mesure, dès qu'on peut commencer à rouler le système, on va le rouler pour commencer à détecter des problèmes qui pourraient survenir. Mais par contre, lorsque tout est prêt, c'est très important d'avoir un minimum de 10 à 21 jours où ce qu'on va rouler le système comme s'il était en exploitation, mais sans usager.
Fait qu'à la même fréquence qu'il serait, les mêmes passages, etc.
Pareil,
donc, c'est
on
comme
ouvre
ça qu'on
les portes, on dit station Le Bourgneuf, puis on ferme les portes, etc.
La côte, la fameuse côte entre la Basse-Ville et la Haute-Ville, ça inquiète énormément de nos auditeurs. Vous qui avez l'expérience, vous voyez ça comment?
On a des ingénieurs qualifiés. Il faut faire confiance aux gens techniques et on va trouver la solution.
OK.
On va sur la Lune.
Ouais. Est-ce qu'on a la solution à l'heure actuelle ou faut la trouver?
Les gens travaillent très, très fort, je vous dirais. On est encore en phase co-développement et tout ça. On commence et tout ça. Donc, mais ça se fait partout ailleurs. Moi, je peux vous dire que c'est pas ça qui m'empêche de dormir la nuit.
OK. À quel endroit qu'il y a une côte comme ça, vous dites que ça se fait partout ailleurs? Parce que c'est une bonne côte à pic là, qu'on a entre la Basse-Ville et l'Haute-Ville ici.
Vous avez raison, j'ai pas en tête la ville, mais je peux vous dire dans mes réseaux qu'il y a des endroits où il y a des côtes puis ça fonctionne.
Mathias, j'ai réussi à poser une question embêtante à la spécialiste du tramway. Ça fait ma journée. Non, les dépassements de coûts, on entend énormément parler de dépassements de coûts. Là, ça tombe bien que vous soyez avec nous cette semaine parce que le fédéral a dit « OK, on arrête de niaiser, on met 2,75 milliards, c'est fait, on a notre contribution, notre part de données. » Mais les gens sont très Thomas, si vous me permettez l'expression, en disant « Ben voyons, ça va être plus que 7,6 milliards. Regardez, le REM, c'était à 7 milliards, ça finit à 9,5. Ottawa, c'était à 4,66 milliards, ça finit à tout près de 6 milliards. Comment qu'on va faire pour respecter le budget à Québec? »
Le budget de 7,6 milliards, monsieur, va être respecté.
Oui, c'est une garantie. Je peux vous enregistrer puis vous ramener en onde en 2033.
C'est déjà enregistré, je vais être là à Québec quand vous voulez.
OK, donc vous nous certifiez qu'on va rentrer dans 7,6 milliards.
On a un budget de 7,6 milliards. On va respecter notre budget de 7,6 milliards.
Excellent. Moi je peux pas faire autre que croire votre parole. Mais je vais vous ramener en nombre, c'est pas 7,6 milliards.
Ça va me faire plaisir.
Ça va vous faire plaisir? Excellent. Mobilité Infra Québec, de quelle façon va être impliqué dans le tramway? Parce qu'on entend beaucoup parler que c'est CDPQ Infra qui va gérer justement le projet. Bon, vous avez été créé pendant qu'on était justement dans les balbutiements du tramway Mobilité Infra Québec pour vous occuper des grands projets d'infrastructure en transport. De quelle façon vous allez vous impliquer dans le projet de tramway?
Alors, CDPQ Infra agit à titre de maître d'œuvre. Nous, on agit à titre de maître d'ouvrage, donc tout ce qui est la portée du projet, l'échéancier, le budget. Et on est très impliqué aussi dans la relation avec les parties prenantes. Vous savez, il y a la Ville de Québec, il y a le RTC, il y a le gouvernement, il y a CDPQ Infra, donc il y a beaucoup de joueurs. Donc nous, on agit un peu comme chef d'orchestre là, pour s'assurer que tout ce beau monde-là se parle. Puis qu'en bout de ligne, là, c'est que quand le tramway va être ouvert aux usagers, bien que ça marche rondement, puis que les usagers aient pour leur compte.
Excellent. Les travaux, ça crée énormément de perturbations et énormément d'incertitudes pour nos commerçants. Dans votre expérience d'Ottawa, qu'est-ce qui se passe avant, pendant puis après les travaux?
Ce que la Ville fait présentement ici à Québec, ça ressemble drôlement à ce qu'on a mis en place à Ottawa. Clairement, le syndrome pas dans ma cour, c'est partout. Hein? C'est pas seulement à Ottawa, c'est pas seulement ici. Puis ça, c'est partout.
Oui, puis ça, je donne une opinion personnelle, mais que ça soit un tramway, que ça soit un immeuble à condo, que ça soit n'importe quelle construction, quand ça se passe dans ta rue ou à côté de chez vous, c'est perturbant. Puis je comprends les gens, là, soit dit en passant. Là.
Donc, la communication est importante. Le savoir en amont, c'est bon. Le savoir pendant aussi, c'est bon. Et je pense que présentement, là, toutes les représentations qui se font avec la Ville par rapport à tout ça, c'est très, très bien. J'ai vu aussi là, qu'il y a des compensations avec les commerçants. Ça, on le fait énormément à Ottawa. Donc, ça aide aussi. Mais il faut surtout penser aux résultats futurs parce que malheureusement, on pense dans les inconvénients d'aujourd'hui. Puis, je suis très, très, très empathique avec les gens qui subissent ça. Mais il faut penser là, que vous allez tellement être fiers de votre tramway. Là. Il y a une très belle ville ici à Québec, là, puis la ville va être encore plus jolie avec le tramway.
Madame Renée Amilcar, PDG de Mobilité Infra Québec, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager votre expérience pour le tramway de Québec. On se refait un petit rendez-vous en cours de processus, pourquoi pas?
Ça va me faire plaisir.
Et j'enregistre le 7,6 milliards. Là.
7,6 milliards.
Parce que là, vous avez de la pression. Pas juste de la pression de Jean-François Fortin, animateur d'On en jase, mais de la population en entier de Québec et surtout des auditeurs de Boulevard.
Un plaisir.
Cool. Merci beaucoup, Mme Amilcar. C'est très apprécié que vous ayez pris le temps de passer avec nous.
On en jase. Jusqu'à 14h. On en jase.
Ah, toujours plaisant de parler avec des experts. C'est avec eux qu'on a leur juste. Bon, évidemment, il peut y avoir des experts qui sont un peu plus joyales. C'est ce qu'on voit du côté de Mme Amilcar, très confiante. Très confiante envers le budget du tramway. Mais écoutez, elle a une carte de visite qui nous permet d'être optimiste. Elle est arrivée en 2021 à Ottawa. C'était le bordel. Elle a mis en place les 101 recommandations. Puis elle a développé une ligne 2, une ligne 3 qui se sont bien passées. Alors, de voir que c'est elle qui est la maître d'œuvre des opérations. T'sais, c'est CDPQ Infra qui donne la job, mais que ces autres qui vont gérer là, la mise en place de tout ça, moi, ça me rassure.
Puis, ce que j'ai retenu de cette entrevue-là, c'est de, un, il va falloir surveiller tout ce qui est à propos de la côte. On n'avait pas encore nécessairement la solution cannée. Donc ça, il va falloir suivre ça de près. Est-ce qu'on va avoir une solution? Est-ce que la solution pourrait engendrer des coûts supplémentaires? De deux, elle a affirmé que les coûts allaient être respectés. Puis les coûts vont être respectés selon Mobilité Infra, même avec l'inflation. On inclut l'inflation dans les 7,6 milliards. Donc, c'est vraiment le budget qu'on dit qu'on touche pas. Cette enveloppe-là va être respectée. Donc, ça, va falloir surveiller également. Puis, lorsqu'on va mettre le tramway en œuvre en 2033, elle a affirmé que ça allait bien se passer puis qu'il n'allait pas avoir de problème majeur.
Exactement.
Une autre chose qu'il va falloir surveiller de près, bien sûr.
99,8% de fiabilité à Ottawa. Donc, on se dit, crime, ça devrait pouvoir fonctionner ici à Québec. Bref, vous allez pouvoir réentendre cette entrevue sur le blvd.fm. Vous êtes plusieurs à réagir. Hugo qui nous dit, hey, merci beaucoup de nous avoir ramené quelqu'un avec une expérience concrète. C'est un discours rassurant Christian qui reste un peu Thomas, lui, en disant bah, j'ai trouvé que ça a des réponses politiques. Il y a des gens, justement, qui disent bah, le tramway, ouais, ça peut faire la job, mais beau avec les fils électriques.
C'est ça. On ne semble pas convaincu.
En effet, c'est un bon point de vue. Mais bref, vous le savez, à Boulevard 101, on laisse vraiment la place à toutes les opinions. Puis je trouvais important pour vous, chers auditeurs, de vous faire entendre l'opinion de cette experte en matière de transport en commun, René Amilcar. Mathias, on va voir notre directeur de programmation, Steven Croiteau, qui va venir s'installer dans quelques instants pour nous parler de ces très beaux et bons sondages pour Boulevard. Mais sinon, avant, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
En parlant du tramway, la Ville de Québec qui accorde un contrat de 21 millions pour réaliser la montée Mendel. Ce contrat permettra, entre autres, la construction d'une montée pour relier les boulevards de la Chaudière et du versant nord. Je vous rappelle que pour des raisons de coût, la montée ne sera pas accessible aux voitures, mais seulement le tramway, une piste cyclable et un trottoir. Donc, ce sera transport collectif, cycliste et piéton. Les 21 millions sont bien sûr inclus dans l'enveloppe totale du projet de 7,6 milliards qu'on vient de se faire assurer par Mobilité Infra respectera le budget total du tramway, et ce, malgré l'inflation. Le projet de loi qui devrait être déposé demain par Sonia Bélanger, projet de loi à propos de l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Projet de loi qu'on pensait aller faire l'unanimité alors que le Parti libéral soutenait le gouvernement. Même chose pour le PQ et Québec solidaire. Par contre, le Parti conservateur du Québec qui s'oppose à l'interdiction de la vente de boissons énergisantes aux plus jeunes.
Je pense que ce qui est important de rappeler, là, que c'est un dossier qui est très important, c'est la santé de nos enfants. Étant moi-même mère de jeunes enfants, ce débat-là, je le trouve important. Puis c'est pour ça qu'on nous, on s'oppose à une précipitation dans ce dossier-là. On s'oppose au populisme dans le dossier.
Vous avez été vraiment plusieurs à réagir au 418-971-101 depuis le début de l'émission sur cette prise de position de Maïté Blanchette-Vézina. Vous êtes la totalité contre cette prise de position, mais pour l'interdiction des boissons énergisantes chez les moins de 16 ans. Et en passant, Mme Blanchette-Vézina est complètement dans le champ. Ce n'est pas du populisme. Il y a des études qui existent depuis 2023 de plusieurs sources différentes qui, justement, recommande cette interdiction-là. Donc, c'est pas du populisme de « on est proche de la campagne électorale, puis la CAQ essaye de se trouver de quoi pour être populaire ». Pas du tout. Tous les autres partis politiques sont en faveur. Je suis certain que si on fera un sondage dans la population, c'est 90% au moins de la population qui va être en faveur de cette interdiction-là. Donc, je suis vraiment très, 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 très déçu du Parti conservateur du Québec.
Les hausses immobilières sont encore en vente du côté de la Ville de Québec. Un nombre record de 964 ventes a été enregistré en mai. On parle d'une hausse de 5% sur un an. Les prix médians qui ont encore une fois augmenté. On parle d'une augmentation de 13% sur un an pour atteindre 575 000 $ pour les plex. Les copropriétés qui progressent de 6% à 330 000 $ Et des maisons unifamiliales, le prix médian qui gagne encore une fois 4% pour s'établir à 470 000 $ Ça coûte de plus en plus cher, vouloir s'acheter à Québec. Et je termine avec les changements à venir dans le secteur Saint-Roch en raison des travaux Tramcité. C'est ce qui nous a été annoncé hier en raison du réaménagement à venir de la rue de la Couronne. On fermera cette rue-là pour l'accès aux voitures au sud de Charest à partir de l'automne 2026. On devra donc mettre la rue Dorchester deux voies de chaque côté. On va donc mettre différentes interventions en place, dont la plus grosse, la démolition de la passerelle Adrien-Pouliot, qui va mener à une fermeture complète de Laurentienne pour la fin de semaine du 19 juin et une fermeture partielle, une voie de chaque côté pour la fin de semaine du 3 juillet.
Exactement. On écoute Carl-Emmanuel Picard, qui est un entrepreneur dans Saint-Roch. C'est le propriétaire du bar Lanti. Il est en entrevue ce matin dans le Point de Max avec Max Larouche concernant ces travaux-là. Carl-Emmanuel est installé sur la rue Dorchester. La rue Dorchester va devenir à deux sens. Ça fait en sorte qu'il n'y aura plus de stationnement devant son commerce et ça va venir impacter énormément les bennes qui viennent jouer chez eux.
Ceux qui commentent et demandent d'être patients sont plutôt biaisés dans leur jugement. Quand c'est toi qui dois expliquer aux bannes la complexité du secteur, quand c'est toi qui dois t'assurer d'avoir l'argent dans ton compte de l'entreprise, quand c'est toi qui as des flashs et des doutes sur la survie de ton entreprise dans laquelle tu mets ta vie, le bien de ta famille, tu ne vis pas le même stress que celui des spectateurs qui dit d'être patient. Et si tu veux le dire que ça te dérange de vivre ça, j'ai la misère à l'aller. Mais la vérité, là, c'est qu'on est plein d'entreprises dans Saint-Roch qu'à chaque jour, on n'a pas d'argent dans notre compte pour payer les dépenses. Puis il y a des gens qui prennent des décisions puis qui n'ont pas pris en compte que l'Anti est là depuis 11 ans, puis qu'avant l'Anti, il y avait l'Agité, puis avant l'Agité, il y avait la taverne d'Orchester, puis là, ils prennent des décisions, puis ils n'ont même pas la bonté de m'appeler.
Mais moi,
pour
c'est
me
ça.
Dire où que les groupes vont stationner, puis ils pensent que moi, je vais manœuvrer là-dedans tout seul. Sérieux, ça, j'ai vu tous les commentaires, mais ce commentaire-là me touche. C'est un projet de vie que je mène avec des gens passionnés pour des gens passionnés, puis là, ça va pas dans le bon sens, Saint-Roch. Il y a plein de commerces qui ferment, ça va continuer à fermer un après l'autre. C'est malheureux, mais c'est ça, la vie.
C'est exactement là, Mathias, où la Ville de Québec l'échappe. Je trouve qu'on informe bien présentement la population à l'avance, comme on l'a fait hier avec la conférence de presse pour Saint-Roch. On a tenu en compte les fins de semaine des capitales de Québec et du festival d'été pour planifier les travaux, justement, du retrait de la passerelle Adrien Pouliot. Mais on ne communique pas avec nos commerçants. La solution sur Grande elle est venue de commerçants. Elle est venue, entre autres, des propriétaires de l'atelier qui sont venus ici en onde à l'émission On en jase. Et là, bien, on a vraiment un témoignage très poignant de Carl-Emmanuel Picard qui, lui, se retrouve les mains vides en disant « OK, moi, là, pour une période de 2 ans, mes bennes ne pourront pas se stationner devant mon local pour décharger leur matériel. Et quand je demande à la ville, ils vont se stationner où? » On me répond « Trouve une place. » C'est là que la Ville de Québec a un très grand manque de sensibilité envers des entrepreneurs qui font rouler la Ville de Québec. Ça, pour moi, c'est inacceptable dans le dossier du tramway.
Pis c'est un réel cri du cœur qu'on a eu de la part de Carl-Emmanuel. Un cri du cœur qui, je pense, est venu toucher tous les commerçants du secteur, puis pas juste les commerçants, là, tout le monde. Là, ça vient prendre au cœur en entendant sa voix cassée. On a peut-être manqué un peu de sensibilité du côté de la Ville. Là, Bruno Marchand, puis il l'a répété quelques fois, la fameuse phrase de « oui, il va y avoir des commerces qui vont fermer, mais ouais, après des travaux, ça va être fantastique, puis d'autres vont ouvrir. » C'est une phrase qui est facile à dire, mais un témoignage comme celui-là nous rappelle que derrière ces commerces-là, c'est pas juste une pancarte, c'est un humain. C'est un être humain, mm-hmm, qui travaille corps et âme pour faire vivre sa passion, pour faire vivre son commerce, pour payer son loyer à la fin du mois, pour arriver à la fin du mois. C'est une vie qui est derrière ces commerces-là, c'est des années de travail. Donc, c'est pas facile de même de dire « Ah, il y en a qui vont fermer, puis il y en a d'autres qui vont ouvrir. » Pour ces commerçants-là, c'est difficile. Puis nous, ce qu'on peut faire, le message, notre pouvoir, nous, le message qu'on peut envoyer, c'est pour de vrai, même si ça va être difficile dans le secteur du centre-ville, même si ça va être difficile dans Saint-Roch, en basse-ville, avec tous les travaux qui s'en viennent, lâchez pas les commerçants locaux. C'est ça notre pouvoir,
oui,
en tant
vraiment
qu'individu, c'est d'aller continuer à encourager ces commerçants-là.
Marianne qui mentionne « Je suis tellement tanné que ce soit les fonctionnaires dans leur bureau qui prennent la décision. Je l'entends, ça vient vraiment me toucher beaucoup. » Puis en effet, aller consulter les gens sur le terrain avant de prendre des décisions. Bonne nouvelle dans le cas de Carl-Emmanuel Picard. Il mentionne plus tard dans l'entrevue qu'il va rencontrer rapidement Élanie Lepage, qui est la conseillère municipale de Saint-Sauveur-Saint-Roch, a souhaité qu'on va trouver des solutions rapides comme on a trouvé pour les commerçants sur Grande Allée. Mais ça devrait jamais venir en réparation. Ça devrait venir en prévention. C'est le rôle de la Ville et la Ville n'assume pas du tout son rôle. On fait une courte pause à Boulevard 101. Par la suite, notre directeur de la programmation, Steven Croiteau, vient s'installer. On a d'excellentes nouvelles avec le sondage numériste d'aujourd'hui.